Plusieurs raisons expliquent que, pour beaucoup, le bouddhisme a pris l'aspect du rire du Dalai Lama. Cet homme rayonne. Depuis Gautama jusqu'au grand fondateur de lignée au Japon, nous avons vu combien le déploiement du bouddhisme dans une nouvelle culture, ou le jaillissement d'une nouvelle école, dépendait du charisme d'un maître ayant voué sa vie à une cause qui le dépassait. D'autre part, chacun connaît la situation du Tibet, le martyre des moines, l'occupation chinoise. La réponse non violente du Dalai Lama est un exemple unique dans le monde d'aujourd'hui. On peut discuter de son efficacité, on ne peut pas mettre en doute sa fidélité à l'idéal du bouddhisme. Tenzin Gyatso est né le 6 juillet 1935 à Takshter, un village du nord-est du Tibet, dans une famille de petits paysans. Un an plus tard, il est reconnu comme la réincarnation, enfin le mot « émanation » serait plus juste, du 13e Dalai Lama, c'est-à-dire comme le représentant du Bodhisattva Avalokiteshvara, nommé Chenrezig au Tibet. Dans la tradition tibétaine, les maîtres, tulku, choisissent de revenir assez vite après leur mort afin de continuer à aider les humains dans la voie de la libération. Leur vie reprend donc sous la forme d'un nouvel être. Entre-temps, l'émanation du défunt a dû errer dans le bardo. Le livre des morts tibétains, Bardo Todol, qui daterait du 8e siècle, décrit ces états intermédiaires avant le retour dans la vie. C'est un guide de préparation aux visions et tendances qui nous attendent. Il vaut mieux effectivement être prévenu que surpris, d'autant plus que certaines épreuves sont assez redoutables. Il est amusant et instructif de lire le passage suivant en pensant à ce que notre modernité croit avoir découvert. Si l'on doit renaître mal, le sentiment d'être un mal se lève chez le connaisseur et un sentiment de haine et de jalousie envers le père, d'attirance envers la mère est ressenti. Si l'on doit renaître femelle, le sentiment de haine envers la mère, d'attraction envers le père, est éprouvé. À partir de l'âge de 6 ans, le futur 14e Dalai Lama, considéré comme étant la même émanation que les 13 premiers, reçoit une formation rigoureuse dans la connaissance des textes et des rituels. En 1959, à 23 ans, il obtient son examen final, avant d'être conduit à s'exiler pour faire entendre la voix du Tibet dans le monde entier. Sa mission est double. Sur le plan spirituel, il n'a cessé d'œuvrer pour la formation de nouveaux moines et leur envoi sur les terres d'Occident afin qu'ils y fassent vivre le dharma menacé de disparition au Tibet. Sur le plan politique, au cours de ses incessants voyages, il a milité pour que la question tibétaine soit prise en considération malgré les terribles pressions de la Chine. Par 3 fois, l'ONU a reconnu la violation des droits de l'homme, et c'est peu dire, au Tibet. Résolution sans aucun effet. En 1987, le Dalai Lama a élaboré un plan en 5 points pour le Tibet. « Notre approche ne cherche pas l'indépendance », a-t-il écrit. « Nous recherchons une véritable autonomie pour préserver la culture tibétaine, la langue tibétaine et l'environnement tibétain. » Il faut dire que l'environnement est très menacé à cause d'une déforestation massive et d'expériences atomiques. D'un autre côté, le Dalai Lama a développé un dialogue actif avec les autres religions, notamment avec le christianisme, lors de la rencontre d'Assise ou de ses dialogues avec Jean-Paul II. Depuis 1973, il débat avec des scientifiques du monde entier afin de comprendre les données actuelles de la science et de les confronter au bouddhisme. À plusieurs reprises, il a pris le risque de dire que, si la science lui apprenait que le bouddhisme était erroné, il serait prêt à modifier son point de vue. Mais de toute évidence, c'est son message moral et spirituel qui lui a permis de faire entendre la voix du bouddhisme tibétain sur tous les continents. un ennemi acquis sans effort, c'est un trésor surgi dans la maison. Il doit m'être cher, cet auxiliaire de ma carrière spirituelle. Si nous devenions violents, nous n'aurions plus rien à défendre. Nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps. Pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité? 14e Dalai Lama. Alexandra Davinel a joué un rôle primordial pour la connaissance du bouddhisme tibétain. Avant elle, en dehors de quelques rares spécialistes, cette forme de bouddhisme était liée à la magie et au mystère de ce pays interdit aux étrangers. Après elle, grâce à son incroyable courage et à ses livres qui ont fait le tour du monde, l'Occident a su que le bouddhisme tantrique du Tibet s'appuyait sur une des pensées majeures de l'histoire des hommes, même si, emporté par son succès et la demande du public, elle a exagérément insisté sur des aspects magiques. Elle est née à Saint-Mandé en 1868. Elle est morte à Digne à 101 ans en 1969. Son père était un Français marqué par le protestantisme. Sa mère était une catholique d'origine scandinave. Son enfance a baigné dans une atmosphère bourgeoise qui l'a étouffée. Dès son plus jeune âge, elle s'échappe et fugue aux grandes dames de ses parents qui pourtant recevait le grand géographe anarchiste Élisée Reclus. Sa famille s'installe à Bruxelles, où elle passera la plus grande partie de sa jeunesse, pendant laquelle elle continue à rêver de départ et de sentir le vide de son existence. À 17 ans, elle voyage seule en Suisse et du côté des lacs italiens. À 18 ans, elle part à bicyclette en Espagne. Elle étudie la philosophie, est de plus en plus attirée par la pensée orientale et apprend l'anglais pour avoir accès à des traductions d'orientalistes. En 1889, elle retourne à Paris. Elle est alors très proche de la société de théosophie, qui était tout à fait en vogue. Elle fréquente le musée Guimet, ainsi que les milieux anarchistes et féministes, et est initiée au sein de la franc-maçonnerie. Elle suit des études musicales, devient même chanteuse d'opéra, en interprétant plusieurs rôles. Mais elle sent que là n'est pas sa vocation. 1890-1891, elle passe un an en Inde. Elle en revient bouleversée, avec l'idée d'y repartir, ce qu'elle fait en passant par la Tunisie, où le destin l'attendait en la personne de Philippe Nel, qu'elle épouse. Elle a 36 ans, mais le mariage la déprime, bien que son mari se soit toujours montré d'un soutien indéfectible sur le plan moral et surtout sur le plan financier, et elle en a grand besoin. En 1911, elle souhaite retourner en Asie. Son séjour est prévu pour 18 mois. Elle ne reviendra que 14 ans plus tard, en 1925. Elle parcourt des milliers de kilomètres, apprend le sanskrit et le tibétain, gagne les régions himalayennes. En 1912, elle se lie avec le roi du Sikkim. En 1914, elle rencontre Hapur Yongden, qui la suivra dans toutes ses aventures et deviendra son fils adoptif. Fils, conseiller, guide et... trois petits points. Elle a accompli une retraite dans une grotte, reçoit des initiations du bouddhisme du Vajrayana et pénètre même au Tibet, mais pas encore à Lhasa, ville interdite. En 1916, elle se fait expulser du Sikkim. Elle se rend alors au Japon, puis en Corée, mais continue de rêver aux hauteurs himalayennes, à cet immense territoire où aucune femme occidentale n'a jamais pu pénétrer. Elle retourne en Chine, la traverse d'est en ouest et passe 3 ans au monastère de Kumbum au Tibet. 3 ans, 3 mois, 3 jours est la durée de la retraite qui permet de devenir lama, c'est-à-dire enseignant. Enfin, initiée sur d'elle-même, elle se déguise en moine mendiant pour gagner Lhasa la mythique avec le fidèle Yongden. Ils y resteront 2 mois. Elle rentre en France, publie le récit de son périple, devient célèbre et enfin indépendante financièrement de son généreux et complaisant mari, envers qui il lui arrive de manifester de temps à autre sa reconnaissance. En 1928, elle bâtit à Digne une maison qu'elle nomme « Forteresse de la méditation ». En 1937, Alexandra Davinel a 69 ans. Elle reprend son sac et repart pour la Chine avec le lama Yongden. Ce nouveau périple durera 10 années, pendant lesquelles elle sera confrontée à la guerre sino-japonaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle séjournera en Inde. De retour en France, nouveau livre, conférence. En 1955, Yongden, qui a 30 ans de moins qu'elle, a l'inélégance de mourir avant elle. Et pour elle, l'heure du départ arrivera à l'âge de 101 ans. Comme elle le souhaitait, ses cendres seront dispersées dans le Gange à Bénarès. Pour témoigner du rôle capital qui a été le sien pour la connaissance du bouddhisme tibétain, le Dalai Lama s'est rendu à 2 reprises en pèlerinage dans sa maison de Digne en 1982 et en 1986. Alexandra Davinel a laissé un nombre important d'ouvrages, dont celui qui l'a rendu célèbre, publié en 1927, « Voyage d'une Parisienne à Lhasa ». Après 1000 épreuves, voilà qu'elle vient d'entrer à Lhasa, accompagnée de Yongden. À peine avons-nous débarqué que l'atmosphère, qui jusque-là était très calme, se trouble soudainement. Dans l'espace de quelques minutes, une tempête furieuse se lève, soulevant jusqu'au ciel des nuages de sable. J'ai vu le Simoun dans le Sahara, et cette terrible averse sèche me donne l'impression d'être retourné au grand désert. Des ombres indistinctes nous croisent, des gens courbés en deux se voilent la figure avec leurs longues manches le pan de leur robe. Qui donc pourrait nous voir venir ? Qui donc pourrait nous reconnaître ? Un gigantesque rideau jaune fait de sable suspendu est étendu devant le Potala, aveuglant ses hôtes, leur masquant Lhasa et les voies qui y conduisent. Je l'interprète comme un symbole me promettant une entière sécurité et l'avenir se chargera de justifier mon interprétation. Pendant 2 mois, je circulerai dans la Rome tibétaine. J'en parcourrai les temples et me promènerai sur les plus hautes terrasses du Potala sans que nul ne se doute que, pour la première fois depuis que la Terre existe, une femme étrangère a contemplé la ville interdite. Au début, sur un immense territoire, des tribus de pasteurs nomades, éleveurs de bovins, de moutons, de chameaux et de petits chevaux transhumant dans des chariots à la recherche de pâturages et de points d'eau. Mais ces Mongols étaient de redoutables guerriers, les meilleurs cavaliers de l'époque, doués d'un courage et d'une volonté indomptables. Ils vont conquérir un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité, tenir le Tibet, régner sur la Chine sous le nom de la dynastie des Yuan, de 1280 à 1368. Vers l'ouest, après avoir brûlé Moscou, s'être emparé de Kiev et ravagé la Hongrie, les Mongols arrivèrent jusqu'aux portes de Vienne. Cette stupéfiante épopée marqua profondément l'histoire du bouddhisme et aurait même pu permettre au christianisme nestorien de s'implanter durablement en Asie centrale. Mais à l'origine, les Mongols pratiquaient le chamanisme. 1206, Genghis Khan, 1162-1227, est à la tête d'un immense empire après avoir fédéré les différentes tribus mongoles. À sa mort, son empire est partagé entre ses fils et ses petits-fils. L'un d'eux, Godan Khan, s'empare du Tibet et est touché par le bouddhisme du Vajrayana qui cohabite avec les pratiques chamaniques de ses guerriers sensibles au souffle de la nature et aux voix des ancêtres qui les guident dans leur cavalcade. Quelques années plus tard, alors que Kublai Khan s'est élancé vers la Chine, il est à son tour convaincu par le bouddhisme tibétain qu'il fera rayonner à Pékin. Après une période de régression, Altan Khan restaurera la puissance des Mongols au XVIe siècle en s'appuyant à nouveau sur de grands maîtres tibétains. L'école des Gelugpa, qui est celle des Dalai Lama, dont la lignée a été instaurée par les Mongols, s'étend sur toute la Mongolie. En 1623, le canon tibétain est traduit en mongol et plus de 2000 temples bouddhiques seront construits en Mongolie. Avec l'arrivée au pouvoir en Chine de la dynastie Mandchou au milieu du XVIIe siècle, le bouddhisme tibétain, qui s'était étendu jusqu'en Mandchourie, retrouvera de l'importance à Pékin. Mais peu à peu, la Mongolie sera soumise à la Chine. Au cours du XIXe siècle, profitant des rivalités russo-chinoises, les lamas se tournèrent vers l'Empire russe à son déclin. En 1911, la Mongolie extérieure proclame son indépendance, tandis que la Mongolie dite intérieure reste sous domination chinoise. Mais le régime communiste de Moscou s'empare de la Mongolie. Urga, la capitale, est rebaptisée Oulan-Bator, c'est-à-dire Héros Rouge. À partir de 1932, les édifices bouddhiques furent rasés et les moines pourchassés. Il faudra attendre la déstalinisation pour que les bouddhistes recommencent à respirer. Mais la véritable libération arrivera en 1989, lorsqu'avec l'éclatement de l'Empire soviétique, la Mongolie est devenue à nouveau indépendante. Tel ne fut pas le destin de la Mongolie intérieure, intégrée à la Chine, qui subit les massacres de la période de la révolution culturelle et aujourd'hui doit faire face à la même sinisation méthodique que celle qui frappe le Tibet. En revanche, le bouddhisme renaît de ses cendres dans la Mongolie indépendante. Une université bouddhique a été érigée à Oulan-Bator, tandis que 155 monastères ont été reconstruits. L'actuel Dalai Lama, Dalai est un mot mongol, a pu se rendre à plusieurs reprises en Mongolie, qui pourrait devenir un foyer vivant du bouddhisme du Vajrayana.